Vous écoutez L'autre monde et nous sommes avec Aline, chanteuse dans le projet Pearl. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
On est ensemble pour parler notamment de Architecture du Vertige, dernier album là, qui est sorti le 24 octobre. Je vais commencer par des louanges presque, devrais-je dire. J'ai été mais plus que impressionné par toutes les émotions qui passent en fait dans votre voix. Combien d'années de travail en fait pour arriver à avoir ce niveau de sensibilité et d'intensité dans la voix?
Bah écoutez, déjà, merci infiniment pour ce retour, ça fait plaisir. Combien d'années de travail? Bah c'est beaucoup, beaucoup. Parce que, bah, il faut savoir que Pearl, c'est quand même un groupe maintenant qui a 17 ans, donc on est plutôt jeune. Et à la base, pour la petite histoire, moi, j'étais recrutée comme guitariste seulement. Et à l'époque, il y avait une chanteuse qui était prévue pour le projet, qui finalement, ça s'est pas fait, elle est partie à Lyon. Et puis un jour, durant une répète, en fait, je sais plus ce qu'on faisait, on devait s'amuser ou rigoler, et moi, je commence à faire des chœurs. Et les gars me disent, mais en fait, tu chantes super bien et tout. Je fais, bah oui, j'ai fait des chœurs dans un ancien projet, comme ça, avec la guitare, mais bon, voilà, je ne suis pas spécialement plus chanteuse que ça. Ah non, mais en fait, tu chantes quand même vachement bien. Et donc, du coup, eh ben, on a fait le test. On a fait le test de me mettre en guitariste chanteuse. Et en fait, ben, moi, je me suis prise au jeu, finalement. Alors après, j'ai toujours aimé écrire. Je chantais pas, mais par contre, j'aimais beaucoup écrire des textes, de la poésie, tout ça. J'ai toujours fait ça. Donc, je me suis dit, bah, après tout, je vais mettre mon écriture au service de la musique. J'ai commencé à écrire des chansons. En plus de la guitare et tout. Et puis, bah oui, je me suis prise au jeu. J'ai commencé à vachement aimer le chant. Et bah, maintenant, du coup, bah, je suis autant chanteuse que guitariste, finalement. Et alors après, bah, le travail de la voix, c'est plusieurs années de process. C'est-à-dire qu'au début, bah, c'est du travail purement technique. Hein, apprendre à scrimer sans trop se faire mal. Chanter juste, j'ai jamais trop eu de problème parce que j'ai toujours chantonné comme ça et j'ai la chance d'avoir plutôt une bonne oreille donc là-dessus, j'ai pas eu trop eu de difficultés. C'était vraiment plus la technique vocale, pas perdre son souffle, scrimer. Et puis après, au début, vous êtes surtout dans un mode, enfin, quand vous êtes plus jeune, c'est surtout oh, j'aimerais bien chanter comme le chanteur de Cult of Luna, oh, j'aimerais bien chanter comme telle ou telle chanteuse. Donc vous êtes beaucoup dans l'imitation, donc vous essayez d'imiter les autres. Et puis en fait, après, j'ai commencé à travailler avec des coachs vocaux sur des formations qui en fait m'ont dit, mais Aline, en fait, faut pas faire ça, il faut que tu trouves ta voix, en fait, la tienne, ce qui te correspond, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, qu'est-ce que tu veux chanter, c'est quoi ta sensibilité propre. Et donc du coup, j'ai vachement travaillé en ce sens, j'ai arrêté d'essayer de faire comme. Et je me suis dit, en fait, moi, Aline, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et donc, j'ai travaillé comme ça. Donc, c'est de la recherche, des expérimentations sur les morceaux. Ah ben non, si je scream comme ça rend pas très bien. Là, par contre, le chant clair, comme ça, c'est vraiment joli. Il y a beaucoup de douceur. Enfin, et petit à petit, bah, on finit par trouver son identité propre. Et vraiment, maintenant, je crois que, ouais, je crois que je commence à trouver ma patte, quoi.
Ce côté personnaliser sa voix, alors c'est un peu bizarre de se dire qu'on va personnaliser son chant, mais en même temps, c'est un conseil que j'ai entendu de Will Ramos de Lorna Shore qui dit, mais en fait, si vous chantez pas vous comme vous êtes, en fait, vous serez jamais juste en fait dans l'émotion, dans l'intensité, etc., quoi.
Oui, c'est vrai. Alors, Willy Ramos, c'est un super chanteur. Hein. C'est vraiment. En plus, en ce moment, il a énormément de succès. On le voit dans plein d'émissions. C'est quelqu'un qui a vraiment une maîtrise incroyable du chant et notamment de tout ce qui est le chant guttural, scrimé. Et il a tout à fait raison. Finalement, quand vous chantez, et encore plus quand vous chantez vos propres textes, vous pouvez pas mentir, en fait. Et, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je souhaite, c'est vraiment retransmettre ce que j'ai voulu écrire, ma vision des choses, mes propres émotions, ma sensibilité, telles qu'elles sont. Et bah, rien de mieux pour ça que de chanter comme on est soi, en fait, hein, et comme on a envie de le faire, parce que bah, imiter les autres, c'est sympa au début, mais après, voilà, on se rend bien compte que ça permet pas d'offrir au spectateur quelque chose de personnel et d'intéressant finalement.
Oui, parce que dans Pearl, donc tu chantes, tu fais de la guitare, tu t'occupes des textes, tu t'occupes aussi des machines. Et puis t'es aidé dans tout ce travail-là avec Bastien à la basse, Thibaut qui s'occupe des batteries et percussions, et vous avez Chris aussi qui joue avec vous en live à la guitare. Au-delà du chant et sur toute l'ambiance de Pearl, ce côté théâtral, est-ce que tu l'as, façon de parler, dès le départ en fait des textes, enfin j'allais dire, est-ce que tu réfléchis d'abord au morceau pour toi, ou est-ce qu'il y a une création qui se fait au fur et à mesure du genre, il y a ça comme musique, ah bah tiens, ça me fait penser à ça comme texte, ou le texte m'emmène plutôt sur tel timbre de voix. Comment tu construis en fait,
Alors,
c'est peut-être tout mélangé d'ailleurs.
ça se construit de manière assez progressive, hein. C'est rare qu'on arrive avec un texte, un morceau, bim. Non, non, c'est assez progressif. Déjà, on travaille beaucoup en commun avec les garçons. C'est vraiment, en général, la musique est quand même là en premier, parce que Pearl, c'est un groupe qui compose beaucoup en jamant. On n'est pas comme beaucoup de groupes qui composent chez eux un morceau, qui arrivent en répète, bah, j'ai écrit ça. Nous, c'est plutôt, souvent, c'est Bastien à la basse ou moi à la guitare. On arrive, on dit, tiens, j'ai un riff, j'ai un truc qui me tombe dans la tête là. Et en fait, on joue, on le développe, on brode autour et on voit ce qui vient, ce qui sort, les ambiances, les sons, les univers. Thibaut, en général, nous cale des trucs à la batterie qui sont aussi intéressants. Et les morceaux se construisent comme ça. Et en général, par rapport à l'ambiance qui se développe, moi, j'ai des idées de texte. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très longue sur l'écriture des textes et sur le choix des thèmes, parce que bah, déjà, j'ai besoin de vraiment sentir le morceau. Ce qu'il y a surtout, c'est que je vais souvent avoir des premières idées. Et justement, au fur et à mesure que les morceaux se développent, comme le morceau va un peu évoluer, parfois changer un peu de direction. Je vais me dire, ah non, non, mais en fait, maintenant qu'on a fait ça, ce thème-là ne fonctionne plus du tout. On va plutôt parler de ça. Et c'est d'ailleurs assez rigolo parce qu'on a une petite blague un peu dans le groupe, c'est que quand on travaille des morceaux, on leur donne des noms de travail, en fait, tant que le titre définitif n'est pas fixé. Et en général, quand on arrive à l'enregistrement de l'album, pour un même morceau, on a parfois quatre titres différents parce qu'en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai changé mes références. Et du coup, on est là, mais attends, ce morceau-là, c'est le même ou c'est pas le même? Et du coup, c'est assez compliqué. Mais oui, c'est assez progressif. En général, ça s'imbrique pas mal. La musique est quand même terminée avant que l'écriture du texte soit définitive. Parce que bon, après, bah, si j'ai besoin de rajouter des paragraphes ou des choses, c'est quand même mieux d'avoir le morceau abouti. Mais oui, je dirais que la musique arrive quand même plus souvent avant le texte et c'est la musique qui va me générer des images, des émotions, certaines sensations. On a pu avoir sur quelques cas particuliers, moi qui arrive avec un texte parce que c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup, qui me plaît et je dis, ah, j'aimerais bien le mettre en musique, mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est quand même beaucoup plus rare.
Je vais parler tout de suite de Lens End, où tu as un partenariat avec Sam de Point Mort. Le fait d'avoir travaillé avec quelqu'un d'autre et surtout avec Sam, qui elle aussi a une voix assez incroyable et avec beaucoup d'intensité, les concerts de Point Mort à chaque fois, c'est presque un rituel en fait. Et je trouve que vous, votre côté théâtral, j'ai envie de dire, mais quand est-ce que vous faites un concert ensemble? Ce serait trop magique. Comment ça s'est passé justement la collaboration avec Sam?
Alors, déjà, pour répondre à ta question, il y a déjà eu des concerts Point Mort, Pearl. Il y en a déjà eu deux, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment des bons copains et copines. Et c'est à chaque fois un vrai plaisir de jouer avec eux. Et alors, la collab avec Sam, elle s'est faite assez naturellement. C'est quelqu'un que je connais depuis un petit moment maintenant. C'est quelqu'un dont j'apprécie vraiment beaucoup la voix. Hein. Je suis moi-même grande fan de Point Mort. Et du coup, j'avais très envie de tester justement cette collaboration entre deux univers complètement différents, ces deux voix totalement différentes. Et en fait, ça s'est fait avec tout un process. qui s'est finalement hyper bien passé, mais qui est quand même assez différent de ce que je fais moi d'habitude. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien les collaborations à la voix, c'est que avec Sam, finalement, on ne travaille pas du tout de la même façon, on ne pose pas nos voix de la même façon, mais c'est justement de réussir à trouver l'accord et le mélange entre les deux qui est vraiment hyper intéressant. Voilà, Sam, elle chante en anglais. C'est quelqu'un qui est habitué à composer plusieurs lignes de voix, qui s'enregistre sur son ordinateur, qui va te proposer des choses, qui va écrire plein de trucs. Moi, je sais que sur ce morceau, elle m'a proposé des lignes de voix. Elle m'a dit, tiens, j'ai écrit ça. Est-ce que ça te dirait d'essayer de chanter? Je pense que ça pourrait être sympa, machin. Et alors que moi, je suis quelqu'un qui... nous, avec Pearl, on est vraiment un groupe, voilà, comme je disais, qui travaille en répète. Donc, on bosse un peu plus en live, finalement. Et moi, en général, le chant, je le travaille, je m'enregistre vraiment au tout dernier moment, genre quand on est sur une maquette ou une pré-prod pour vraiment vérifier que la voix va bien et tout. Mais je travaille vraiment de manière beaucoup plus live. Et en plus, moi, je chante en français, donc ma voix, je la cale pas du tout de la même façon sur la musique. J'ai pas les mêmes placements, j'ai pas les mêmes rythmiques. Et du coup, voilà, on a travaillé un peu comme ça, par piste interposée. Et quand on s'est retrouvés en studio, c'était vraiment drôle parce que quand Sam m'a entendu enregistrer des parties en français, elle était là, mais je ne sais pas comment tu fais pour caler ta voix comme ça. Dis-moi, j'en serais incapable. Mais moi, c'était pareil. Il y a des choses que elle fait qui pour moi étaient super difficiles. Il a fallu que je la double sur certaines parties en anglais et tout. Et les placements qu'elle avait pour moi étaient très complexes aussi parce que je chante pas du tout comme elle. Mais après, voilà, c'était super sympa. C'était une bonne expérience, enrichissant. Et justement, le fait qu'on se soit toutes les deux un peu jeté ces petits défis, d'apprendre un peu à voir comment fonctionne l'autre et nos différents placements. Finalement, c'était vachement chouette, et le résultat est vraiment intéressant, quoi.
Et cette reprise de Solstafir, c'était une évidence pour vous, je suppose, mais en même
Alors,
temps, voilà,
ouais, en fait,
reprendre et retransformer, rajouter enfin, le saxophone, le texte en français, quelqu'un qui ne connaît pas Solstafir pourrait presque se faire avoir en fait et croire que c'est une composition originale.
c'est vrai. Alors, Sol Staffier, en fait, on est tous des gros fans de cette chanson d'Ampeur. Et donc, voilà, on s'est dit, franchement, ce serait super chouette d'essayer de la reprendre. Mais bon, au départ, on était là, ouais, il chante quand même en islandais et tout. Comment je vais faire? Moi, je maîtrise pas un mot d'islandais. Mais en même temps, c'est quand même un super morceau. On avait un peu peur parce que c'est quand même un morceau qui est aimé par beaucoup de monde. La communauté des fans de Solstafir, c'est vraiment pour eux un morceau phare, quoi. Donc on était là, bon, est-ce qu'on tente ou pas? Et puis on s'est dit, franchement, c'était une idée qui nous faisait envie. Et on s'est dit, franchement, quitte à faire une cover, si c'est juste pour chanter pareil et faire la même chose, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, on ne la fera jamais sonner aussi bien que Solstafir eux-mêmes. Donc si on la reprend, faut qu'on se la réapproprie à notre sauce, c'est-à-dire que montrer qu'on aime ce morceau, qu'on a envie de le jouer, mais qu'on le joue à notre façon, parce que jouer comme Sostafir, c'est impossible. Ils ont un tel feeling sur ce morceau, c'est voilà. Mais donc on s'est dit, nous, si on était Pearl et qu'on venait et qu'on avait composé ce morceau, en fait, comment on le ferait? Déjà, le chant, il serait en français. Donc du coup, j'ai traduit, j'ai fait un gros travail. De traduction, d'abord, j'ai traduit l'islandais littéralement en français pour avoir vraiment le sens de base. Et après, moi, j'ai réécrit le texte avec mes mots et ma poésie, on va dire, pour que ça sonne avec ma voix et que je puisse placer ça correctement, tout en respectant vraiment le sens des phrases et du thème général. Ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était un travail vraiment intéressant. Pas facile, mais très intéressant. Et après, au niveau de la musique, on s'est dit, bon, voilà, moi, si j'étais pas, enfin, si j'écrivais un morceau comme ça, à la base, Sébastien a dit, moi, je ferais un gros son, grave, assez drone, etc. Et puis, on a brodé comme ça. Et en fait, quand on a eu terminé de le bosser avec le chant français, qu'on a eu calé les différents éléments, on s'est dit, c'est cool, mais quand même, il manque un truc. Il nous manquait un petit truc. Et on s'est dit, franchement, il faudrait qu'on trouve un instrument. Alors, au départ, on était là, ah, peut-être un violoncelle, ouais, mais c'est un peu classique et tout. Et là, il y a mon batteur qui nous dit, mais moi, je connais un pote qui joue dans Arteca, c'est un saxophoniste de jazz à la base. Il est hyper fort en impro, il joue du saxophone, mais de manière un peu moderne, quoi. Et vraiment, est-ce qu'on tenterait pas du sax, quoi? Et on se dit, bah, ok, pourquoi pas. Et en fait, Yannick Renaud est venu en répète, on lui a proposé le projet. Il lui a dit, voilà, est-ce que tu te sens de te faire une impro, notamment sur la fin et tout? Et vraiment, on a joué deux fois le morceau. En deux prises, il nous a fait un truc complètement dingo, quoi. Enfin, vraiment incroyable. Et c'est vraiment un super musicien. Quand on a écouté après les pistes, on a dit, mais en fait, bah, c'est ça. Il nous manquait ça. Ça crée une ambiance absolument incroyable. Ça donne de la mélancolie, un côté, une forme de douceur, mais un peu écorchée quand même. Enfin, et vraiment, on trouvait que ça donnait un petit côté magique, quoi. Donc voilà, on est vraiment super contents. Et pour la petite histoire, on a été validés par Sostafir eux-mêmes parce que, en fait, il faut savoir que quand tu veux mettre une cover sur un album que tu vas presser, il faut l'accord du label et des compositeurs du morceau. Or, ce morceau-là, il a été composé par le chanteur et l'ancien batteur. Donc Season of Mist nous a contactés en disant qu'eux étaient d'accord, mais qu'il nous fallait l'accord de ces deux-là. Et en fait, les deux nous ont répondu par la positive en disant, bah, écoutez, au départ, on avait un petit peu peur quand même. Et finalement, en fait, ils ont trouvé ça vraiment bien et ils ont même repartagé le clip sur les réseaux sociaux et tout. Donc, on est super contents. C'est vraiment cool.
Et en clip, vous avez choisi d'illustrer l'album aussi avec Naufragé des nuages, qui est le deuxième morceau de cet album-là. Pourquoi ce titre-là spécialement en clip?
Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un morceau qui est très efficace, qui est un tout petit peu moins long quand même que certains. Et il est efficace et surtout, il a une configuration qui est un peu plus parlante pour un public un peu plus large, puisqu'il a quand même un refrain. Ce qu'on n'a pas souvent chez Pearl, notamment sur nos précédents albums, on a plutôt tendance à faire des morceaux un peu progressifs et évolutifs. Et vraiment, sur cet album-là, on a quand même un peu plus de morceaux avec des structures, on va dire, un peu plus traditionnelles. Alors après, Pearl reste Pearl, hein, avec des passages quand même un peu à rallonge et qui partent dans certaines directions. Mais on avait vraiment envie d'essayer de retrouver aussi des parties un peu plus fédératrices, finalement, que les gens pourraient retenir et se dire, bah voilà, en live, on peut chanter cette partie, on la connaît, ça revient, ça reste dans la tête. Et vraiment, ce morceau-là, bah, il avait un refrain hyper catchy qui était cool. Et surtout, il avait un côté un peu, comment dire, modèle pour l'album, dans le sens où on retrouve dans ce morceau un peu ce qu'on va retrouver dans l'ensemble des autres morceaux, à savoir bah, du chant saturé, du chant un peu slam, du chant un peu plus pop rock indé. Et du coup, et puis on aime bien aussi le contraste qu'il y a dans le morceau entre des passages beaucoup plus nerveux et des passages beaucoup plus doux. Et vraiment, on s'est dit, bah, en fait, ce morceau, il incarne vraiment tout ce qu'on va retrouver au sein de cet album. Le texte parle pas mal. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est que quand on l'a enregistré en studio avec Étienne Sartoux, quand on avait fini les mix, les prods et tout, il nous a dit vraiment ce morceau-là, il est béton. Il faut que ce soit votre premier single en fait. Parce que c'est vraiment le plus catchy, celui qui va droit au but et qui vous représente le plus sur cet album. Donc voilà, ça nous a aidé aussi à choisir. C'est vrai qu'avoir des avis extérieurs, ça permet aussi de faire les bons choix.
J'aimerais qu'on parle encore de deux titres, en commençant par Arcipelago. Qu'est-ce que tu peux nous
Alors,
dire de ce morceau-là? Parce qu'il est quand même assez, j'allais dire, enfin, il fait penser à plein de choses en fait. Il est très, j'allais dire, imaginaire, mais en fait, ça débloque plutôt notre imaginaire quand on l'écoute.
ouais, c'est un morceau pour le coup Archipelago qui est très qui pour le coup est un peu plus expérimental. Mais j'avais envie de faire un morceau vraiment où où il y avait beaucoup de sensibilité, de sensualité et d'émotions fortes, en fait. C'est un morceau qui parle d'amour, hein. Vraiment, c'est l'amour, c'est la sensualité. Et Archipelago, donc, c'est l'archipel. Mais c'est pas l'archipel, c'est pas genre les îles, le sable, les cocotiers, c'est l'archipel brumeux, plutôt des îles scandinaves, quoi. Du côté hyper brumeux, hyper nébuleux qu'on a au début. Ces accords un peu mystérieux, un peu cotonneux comme ça, c'était vraiment une ambiance que je voulais retrouver. Et en fait, le texte parle de l'amour en fait en s'incarnant dans ces paysages d'archipel scandinave. Et voilà, c'est les caresses, c'est les méandres de l'eau parmi la végétation et les îles. C'est les corps qui se mélangent, enfin, c'est plein de choses comme ça qui sont incarnées en fait dans ce paysage de l'archipel. J'ai voulu l'exprimer à travers cette métaphore-là. Et c'est un morceau où, au niveau de la voix, vraiment, j'ai expérimenté et tenté beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile, c'est un morceau qui est très technique, hein. Vocalement, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un morceau qui, techniquement, moi, me demande beaucoup de travail. Mais je suis vraiment contente du résultat parce qu'il y a vraiment une très très belle émotion qui en découle. Et c'est vraiment le morceau qui a été le plus compliqué pour nous à enregistrer et à faire en studio. Parce qu'il y a beaucoup d'effets, c'est très nébuleux, il y a plein de choses qui se passent. Mais maintenant, avec le recul, je crois qu'il fait partie de mes morceaux préférés de l'album. Et en live, c'est vraiment un morceau central.
Et j'aurais une question aussi sur que l'éclat fasse demeure avec ce final qui est... On est enfin quand l'album se termine avec ce morceau-là en plus au bout de 7 minutes 35 on est à bout de souffle façon de parler quoi.
Alors, Que l'éclat fasse demeure, c'est un morceau, c'est la petite lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir sur l'album vraiment l'histoire un peu d'une chute vertigineuse en passant par tout un tas d'émotions, la désillusion, la chute, la colère, la peur, toutes ces choses-là. Et Que l'éclat fasse demeure, c'est vraiment pour expliquer aux gens que même quand on a l'impression de tomber comme ça, d'être en chute libre, d'être dans un vertige incontrôlable, il y a toujours quelque part en nous, autour de nous, un petit éclat de beauté qui reste et auquel on se raccroche en fait. Pour moi, c'est un peu un texte qui parle de mon rapport à l'art parce que moi, l'art, c'est vraiment, pour moi, c'est l'expression de la beauté dans ce qu'elle a de plus beau et de plus pur. Et moi, c'est ce à quoi je me raccroche. C'est vraiment, pour moi, presque un art de vie, la beauté, quoi. Et du coup, voilà, je voulais montrer vraiment aux gens que ce petit éclat, il est super important, aussi infime qu'il soit. C'est vraiment notre maison, ce qui nous constitue et ce qui nous bâtit, parce que c'est dans ces petites choses, c'est dans ce petit bonheur minuscule qu'en fait on tient quoi, même dans les moments ou les heures les plus sombres, d'où ce titre, et puis des paroles comme de la beauté pour radicalité. Voilà, pour moi, la beauté, c'est un peu ce qui nous sauve, quoi.
Et donc ce soir, une release party avec tout le monde en plus, puisque il y aura votre saxophoniste, donc Yannick sera là, et vous jouez avec vos copains de Mozi à la péniche Antipode ce soir.
Ouais, tout à fait. Donc ce soir, release party parisienne. Plein de belles choses de prévues. Un très beau concert. Notre bassiste Bastien gère aussi les lumières en même temps. Et il nous a fait vraiment des lumières qui sont magnifiques. Donc ça va être un beau spectacle. Effectivement, on a des invités. On a Yannick qui sera avec nous sur scène. Et croyez-moi, ça va envoyer du lourd. Et on a aussi Faustine Bérardeau qui, elle, n'était pas présente sur cet album, mais sur Luminance, qui viendra nous faire le plaisir d'interpréter le featuring L'homme à l'éléphant blanc avec nous. C'est un morceau qu'on a voulu rejouer à cette release parce que c'est un morceau, c'est un peu le tube de chez Pearl. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent voir ce tube en live. Et là, d'avoir Faustine qui est présente ce soir, je pense que ça va vraiment être un chouette moment. Voilà, donc bah, on a hâte. Voilà, là, je vais partir juste après me préparer. Pour ça, les copains de Mozi vont ouvrir. Pareil, ils font un set vraiment hyper sympa aussi. Ils ont des morceaux qui sont très très cool. Et voilà, ça va être une super soirée et on espère y voir le plus de monde et partager tous ces nouveaux morceaux avec vous. Voilà.
Donc je te propose de choisir une boussole qui permet de toujours te guider vers l'espoir,
D'accord.
une lampe qui éclaire des vérités cachées,
D'accord.
un arbre dont les fruits guérissent les blessures, un instrument de musique dont la mélodie apaise les conflits, ou un livre dont chaque page révèle un secret oublié. Tu prendrais lequel?
Ah, c'est dur. J'hésite entre le livre et la lanterne parce que bah, la lanterne, ça correspond un peu à ce que je viens de vous expliquer sur que l'éclat fasse demeure, ce côté un peu cette petite lumière-là qui est là toujours derrière certaines vérités qui peuvent être dures. Après, le livre, parce que je suis une grande lectrice, je lis énormément et il y a certains morceaux qui ont été influencés par des livres. Alors, un peu moins dans Architecture du Vertige, mais dans les albums précédents, mes lectures m'ont énormément influencé. Je suis vraiment un petit rat de bibliothèque, hein, donc j'en lis vraiment beaucoup. Du coup, ça me parle aussi énormément. Mais je vais rester sur la lanterne parce que je pense que pour Architecture du Vertige, c'est ce qui parle quand même le plus, je dirais.
Un dernier mot pour conclure.
Eh bien, déjà, merci à vous pour l'interview. Merci à l'autre monde. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter tout ça. Et puis, bah, merci à tous les gens qui sont là depuis des années, qui nous soutiennent, que ce soit les auditeurs, les auditrices, la presse, tout ça. Vraiment, un grand merci à tout le monde. Et puis, bah, on espère voir le plus de monde ce soir à Paris pour un show qui va être absolument extraordinaire. Merci infiniment.
Merci beaucoup, Aline.
Merci.